Bonjour à tous. Et oui, c'est à l'occasion de la première édition nationale de l'opération 1000 mains pour le chemin de Saint-Jacques le 2 octobre prochain que Radio Présence met l'accent aujourd'hui sur les initiatives régionales de cet événement de grande ampleur. L'occasion aussi de faire le point sur ce chemin de pèlerinage multiséculaire avec le directeur de l'agence des chemins de Compostelle. Bonjour Niels Brunet.
Bonjour.
Voilà 23 ans que les chemins de Saint-Jacques de Compostelle sont inscrits sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO sous la forme d'une sélection de 71 monuments et 7 tronçons de sentiers qui témoignent des aspects spirituels et matériels du pèlerinage. Pas moins de 3 routes principales traversent la région Occitanie, la voie du Puy, la voie d'Arles et la voie du Piémont pyrénéen. Et puis évidemment beaucoup d'autres itinéraires très nombreux qui offrent des alternatives intéressantes. Tous ces itinéraires justement, ce sont eux qui font l'objet de l'opération 1000 mains pour le chemin de Saint-Jacques de Compostelle. De quoi s'agit-il exactement, Niels Brunet ?
1000 mains pour le chemin, c'est une action bénévole qui a été initiée il y a plusieurs années, 5-6 ans, dans le département du Lot. Des bénévoles qui, passionnés de patrimoine, du patrimoine rural, très actifs dans la restauration, l'entretien du patrimoine, qui ont décidé une année de se mobiliser autour du chemin pour faire découvrir, s'intéresser davantage à ce chemin, qui traversait ce territoire et pour participer à son entretien, à la restauration du patrimoine.
Donc maintenant, c'est parti du Lot et maintenant ça va être étendu sur différents chemins. Et qu'est-ce que vont faire ces bénévoles ?
En fait, oui, c'est parti du Lot et on a souhaité en faire un événement national qui démarre progressivement. Ces bénévoles vont faire de l'entretien, du débroussaillage, de la restauration de murets, par exemple, en pierre sèche dans le Lot, ou dégager des puits ou des caselles, des cabanes de pierre sèche. Par endroits, il y a d'autres initiatives qui sont imaginées dans le département de l'Aude, sur le chemin du Piémont pyrénéen, ou à Saint-Gervais-sur-Mare, sur le chemin, sur la voie d'Arles, du coup, dans l'Hérault. Et là aussi, on est soit sur la restauration du patrimoine, plutôt du petit patrimoine, l'entretien, mais parfois aussi sur la plantation d'arbres fruitiers, par exemple.
Ouais. D'arbres fruitiers pour pouvoir sustenter les marcheurs et cueillir une petite figue au mois de septembre, par exemple.
Par exemple, c'est vraiment interprété comme un geste d'accueil, en fait. Ah. Le fait que des habitants d'un territoire se mobilisent sur une journée, voire davantage, mais au moins une journée, donnent de leur temps pour embellir, participer de la qualité de ce chemin. C'est évidemment très bien perçu par les cheminants et les pèlerins, les randonneurs, qui apprécient ce geste-là et qui le témoignent en général en retour. On a de très beaux témoignages.
Ah, c'est magnifique. Est-ce que, outre cet intérêt environnemental qui est évident hein, pour cette opération 1000 mains pour le chemin de Saint-Jacques de Compostelle, est-ce qu'il y a un autre but poursuivi peut-être de nouer des liens entre les habitants, les bénévoles ?
Oui, il y a tout à fait ça. Il y a nouer des liens entre les habitants, les bénévoles, et nouer des liens entre les habitants et les marcheurs, en fait. Parce que ce qu'on s'aperçoit parfois, c'est que les randonneurs ont un objectif, avancent, traversent un territoire, sont hébergés, se nourrissent, etc. Mais sans qu'il y ait forcément toujours d'espace de rencontre. Or, la valeur d'hospitalité est une valeur très importante sur ce chemin. Et donc, ces journées-là sont aussi l'occasion de rencontres, en fait, de partage, puisque sur ces chemins, il y a, en ce moment un peu moins, mais il y a des gens du monde entier qui viennent. Et donc, du coup, c'est aussi une belle fenêtre sur le monde et de belles rencontres.
Oui, bien sûr. Vous parlez d'hospitalité, d'accueil. Ce sont des valeurs qui sont effectivement des valeurs à partager. Et notamment, quand on sort de cette crise sanitaire, on a besoin de ce contact humain. C'est vraiment quelque chose que les gens recherchent quand ils viennent sur le chemin de Saint-Jacques de Compostelle.
Oui, c'est une des motivations principales. C'est celle qui ressort quand on fait quelques enquêtes. C'est celle qui ressort fortement, c'est la rencontre. La rencontre avec les autres, dans une relation assez juste, en fait. Voilà, au-delà des relations sociales qu'on peut avoir habituellement. En fait, quand on est sur le chemin, on s'extirpe un peu de son environnement
quotidien.
Et de son quotidien et de son environnement social. Donc, pour la plupart, il y a le souhait, effectivement, de rencontrer d'autres personnes, d'autres histoires. pour certains, c'est plus une rencontre avec soi-même. Hein. Il y a une démarche aussi d'introspection, de recherche, de reconnexion.
Une quête de sens peut-être aussi.
De sens, qui fait que ce qui est intéressant, c'est de pouvoir alterner les deux, c'est-à-dire de marcher et d'être dans sa propre démarche, et puis de se retrouver le soir dans les auberges et de rencontrer d'autres marcheurs ou des habitants d'un territoire.
Vous avez lancé, Nils Brunet, avec l'Agence des chemins de Compostelle, une grande enquête pour connaître ces publics qui empruntent ces routes. Est-ce que, même si cette consultation n'est pas complètement terminée, vous avez déjà une idée, vous pouvez nous présenter quel est le profil de ces marcheurs ?
Alors le profil, l'enquête d'ailleurs, on peut inviter les auditeurs à y participer puisqu'elle est encore en cours jusqu'à la fin du mois d'octobre. Donc sur notre site internet, on pourra trouver toutes les informations pour répondre à cette enquête, qu'on ait été sur le chemin cette année ou en 2020 ou en 2019.
Voilà. D'accord.
Alors effectivement, ces résultats, on les connaîtra en début d'année 2022. Néanmoins, on a quand même des enquêtes plus locales qui sont menées. On connaît un peu les profils. C'est plutôt une moyenne d'âge un peu plus âgée, 45 ans, plutôt 45, 55 ou 55, 65 ans. C'est parfois des personnes qui partent aussi parfois sur des moments charnières ou des moments de transition.
Par exemple, un départ à la retraite.
Souvent un départ à la retraite, le besoin de faire un break. Maintenant, des plus jeunes aussi, des étudiants qui font une coupure, et plutôt que de faire un break en allant en Nouvelle-Zélande, qui peuvent aussi partir sur le chemin et faire le point de là où ils en sont et de là où ils veulent.
C'est meilleur pour l'empreinte carbone.
Ils veulent aller, exactement. Et on le voit de plus en plus. Sur les motivations, elles sont extrêmement diverses. On a des personnes qui sont dans une démarche de foi et de démarche de pèlerinage religieux. C'est à peu près 15% des marcheurs.
D'accord.
D'autres, plus d'une trentaine, hein, qui expriment une démarche de recherche de sens, et une démarche plus spirituelle au sens large, sans qu'on arrive complètement toujours à bien définir ce qu'on met derrière spirituel. Et puis pour l'autre moitié, c'est à la fois un défi physique, c'est à la fois marcher au long cours, c'est retrouver aussi un peu son corps, des sensations, s'éprouver un peu physiquement, voir de quoi on est capable, parce que c'est pas forcément facile.
Et on n'a pas forcément l'habitude de marcher 10, 15, 30
km par jour. Exactement, de retrouver des muscles qu'on n'imaginait plus, etc., etc. Et puis certains, c'est le fait de découvrir un territoire autrement. Voilà, on n'est pas en séjour, on circule, on ne rayonne pas autour d'un hébergement. On va découvrir au rythme de la marche, donc le rythme lent, on va découvrir un territoire, des pratiques agricoles, des produits, des savoir-faire, des paysages, un patrimoine, des habitants. Enfin, voilà, c'est une autre façon, et c'est ça aussi, c'est cette partie-là qui est en train de se développer de plus en plus. Des aspirations aussi à voyager autrement, à ce qu'il y ait un peu plus de sens aussi dans ses vacances, ses loisirs, et à la fois d'être dans le dépaysement, mais le dépaysement qui n'est pas forcément toujours très lointain.
Oui. Oui, c'est ça. Et puis la marche permet justement de prendre son temps et d'être attentif, puisqu'on n'est pas focalisé sur une performance arrivée à telle heure, bien qu'il faut, il faille quand même réserver à arriver à son lieu de pour dormir la nuit. Bon, il faut y arriver avant la nuit, ça c'est évident, mais c'est vrai que la marche donne le temps de contempler, et c'est un besoin que vous voyez quand vous avez des personnes qui en reviennent de ce chemin de Saint-Jacques. Est-ce qu'elles vous disent j'y retournerai, ou bien ça y est, j'ai fait mon expérience? Est-ce que vous avez un retour sur l'après?
Généralement, elles ont envie d'y retourner.
Ouais.
Alors, elles le font. Les personnes le font par tronçon aujourd'hui, parce qu'en n'ayant pas forcément la disponibilité, donc beaucoup partent une semaine, puis l'année d'après une semaine de plus, en repartant du point où elles sont arrivées l'année précédente. On a beaucoup de témoignages où on perçoit une certaine émotion et une envie d'y retourner. Moi, c'est pas rare où je vois des gens qui, quand je leur dis ce que je fais et quel est mon métier, me témoignent de « Ah oui, on l'a fait, on a été à tel endroit », et il y a des yeux qui brillent. Oui.
Oui, ça laisse pas indifférent, ce chemin.
Est-ce qu'ils le font ou ils le font pas? Après, la ville fait qu'ils le font, ils y retourneront pas nécessairement, mais il y a l'envie d'y retourner.
Oui, il y a un désir profond, oui. La saison touristique, Nils Brunet, sur les chemins de Saint-Jacques, tout ça, sa fin, vous disiez que, voilà, il y avait moins de pèlerins, moins de marcheurs sur ces routes. Est-ce que vous pourriez quand même nous faire un petit bilan au regard de cette crise sanitaire? Est-ce que les chemins ont été aussi fréquentés que les autres années?
Alors on retrouve sur cette année 2021, sur le chemin du Puy notamment, on retrouve des chiffres de fréquentation qu'on connaissait en en 2019, qui est un peu l'année de référence. Donc, c'est-à-dire que ça a été un peu décalé, comme toutes les activités cette année. D'habitude, on a plus de monde en avril, mai, juin, septembre sur les chemins. Et là, on a observé que le début de saison a été un peu doux,
peu mort, voilà, oui. Un peu,
mais que à partir du mois de juillet, août en particulier, et septembre, il y a des marcheurs. Et en ce moment, il y a pas mal de marcheurs sur le chemin du Puy. C'est certainement celui sur lequel on a une fréquentation qui a vraiment redémarré. Sur les autres, on a aussi des fréquentations, mais on a aujourd'hui moins de chiffres. On avance un peu à tâtons, voilà, et on verra en fin d'année, on pourra faire un bilan plus précis.
D'accord. Est-ce que vous regardez un petit peu ce qui se passe de l'autre côté de la frontière? Est-ce que par rapport à l'Espagne, vous avez les mêmes fréquentations? Est-ce que c'est le même rythme ou est-ce que vous n'avez pas trop d'idées de ce qui se passe de l'autre côté?
On travaille avec l'Espagne parce qu'on donne de l'information aussi sur les chemins en Espagne. Et puis on a des partenariats avec des acteurs associatifs ou institutionnels en Espagne, donc on est assez proche. On a des fréquentations qui sont beaucoup plus fortes en Espagne qu'en France. Et notamment une des raisons, c'est que beaucoup de personnes partent de Saint-Jean-Pied-de-Port sur le Camino français, ou de Bayonne sur le chemin du Nord. Et donc, on part en France, mais pour très vite arriver en Espagne. Donc, on est sur des fréquentations beaucoup plus fortes. Mais à contrario, comme on a été beaucoup ces deux dernières années sur un public français, ils ont beaucoup plus souffert, puisque c'est plutôt un public plus international sur le Camino français. Et donc, ils ont souffert aussi de l'absence des étrangers. Ça a été plus impactant, sans doute, pour eux que pour nous.
D'accord. Donc finalement, les Français sont restés en France et ont parcouru les chemins de Saint-Jacques. Donc c'est une bonne chose en tout cas pour ce chemin de Saint-Jacques et cette fréquentation. Quand la fête de Saint-Jacques, qui est donc le 25 juillet, tombe un dimanche, on parle d'année jacquaire. Cette année-là, la porte sainte de la cathédrale de Saint-Jacques de Compostelle est ouverte au premier jour et refermée au dernier jour de l'année. Cette année, 2021-2022, est justement une année jacquaire. Vous me disiez en préparant cet entretien que ça va un petit peu déborder. Quelles sont, Nils Brunet, les différentes manifestations prévues pour célébrer cette année jacquaire?
Alors cette année, il y a déjà eu un certain nombre d'événements qui ont été organisés par des associations, des collectivités, puisque depuis maintenant 3 ans, on développe une saison culturelle sur les chemins de Saint-Jacques pour donner à voir en fait un patrimoine, une histoire très vivante, et permettre d'aborder différentes facettes, soit historiques, patrimoniales ou plus contemporaines des chemins de Saint-Jacques. Donc ça se traduit par de nombreuses manifestations. Et là, on organise sur cette partie d'automne plusieurs expositions et des tournées de conférences aussi, avec une historienne notamment, Adeline Recoy, que vous avez déjà reçue ici à plusieurs reprises, et qui va donner quelques conférences dans le sud-est de la France, et ici d'ailleurs aussi à Toulouse au mois de novembre.
Donc une année jacquaire qui a commencé le 1er janvier 2021 et qui se terminera quand?
Qui se terminera le 31 décembre 2022, puisqu'il a été décidé qu'il y aurait deux années jacquaire, en fait, 2021 et 2022. Donc on aura l'occasion encore de se mobiliser pour faire découvrir ces chemins de Saint-Jacques tout au long de l'année prochaine.
Oui, bien sûr. Merci beaucoup, Nils Brunet, d'être venu nous présenter l'opération Mille Mains pour le chemin de Saint-Jacques et puis les projets aussi pour cette année jacquaire. Voilà de quoi donner envie de chausser ses godillots et de mettre ses pas dans ceux qui nous ont précédés.
Merci à vous.